Donc, juste pour introduire cette conférence, donc le titre c'est « Jésus-Christ revient, l'attendons-nous ? Vision d'un Messie vivant qui a fait une promesse ». Alors c'est vrai que c'est pas le meilleur moment, souvent après un bon repas et voilà, on a parfois envie un peu de piquer du nez. Heureusement, il y a Frédéric qui va nous captiver. Et j'espère le Saint-Esprit et la parole de Dieu aussi. Voilà, mais pour commencer en fait, et pour imaginer un peu cette troisième partie, Jésus-Christ revient, l'attendons-nous, je vous propose une petite histoire. Comme la foule l'écoutait attentivement, Jésus continua en racontant une parabole, parce qu'il se rapprochait de Jérusalem et que beaucoup de gens s'imaginaient que d'un instant à l'autre, le règne de Dieu serait instauré de façon visible. Voici donc ce que Jésus dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain, pour y être officiellement nommé roi. Ensuite, il devait revenir dans ses états. Il convoqua 10 de ses employés et leur remit à chacun une pièce d'or de grande valeur. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour ». Mais les gens de son pays détestaient cet homme. Aussi, dès qu'il fut parti, ils envoyèrent derrière son dos une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit convoquer les employés auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir comment chacun d'eux l'avait fait fructifier et quel profit il avait réalisé. Donc c'est une petite histoire tirée de Luc 19, je pense que la plupart ont reconnu. Alors c'est vrai que quand on lit cette histoire, on a l'impression de voir un peu dans cette histoire ou cette parabole un peu compliquée, que Jésus parle de lui comme d'un homme de famille noble qui doit s'absenter un bon moment pour aller se faire officiellement nommer roi dans un pays lointain. Alors, est-ce vraiment du ciel qu'il est parlé ici? Peut-être qu'on aura une réponse cet après-midi. En tout cas, on voit que certains n'ont pas voulu de lui lors de sa première venue sur la terre. Est-ce que Jésus ici fait allusion à sa crucifixion? Il promet ensuite de revenir pour juger et régner. Est-ce que là, on a une vraie référence à sa deuxième venue? Donc on en a un peu parlé ce matin, mais on va y revenir. Puis pendant ce temps, on a l'impression qu'il confie à certains un travail pour le temps de son absence. Alors Frédéric, peux-tu nous aider une nouvelle fois avec la parole de Dieu à entrer dans cette promesse de Jésus, en particulier que sa mort n'était pas la fin de l'histoire et qu'il allait ressusciter et être élevé au ciel, hein, partir pour devenir le roi des rois et revenir. Alors est-ce que tu pourras aussi peut-être nous aider et nous montrer comme le laisse supposer cette parabole, combien Jésus compte sur nous pour passer l'éternité avec lui et pour l'aider dans son règne. Ah oui, une dernière question. Est-ce que tu penses aussi que Jésus attend quelque chose de nous lors de son retour ou pour son retour? Voilà, je te laisse maintenant la place.
Voilà. Il est venu, c'est ce qu'on a regardé ce matin, il était annoncé, il est venu, il y avait des prophéties, il y avait des textes, il est entré dans ces prophéties, entré dans ces textes, il est venu, toutes ces promesses se sont réalisées, évidemment on a déjà une première base solide, le fait que tout se soit réalisé pour savoir, eh bien, s'il nous a promis quelque chose, est-ce que ça va se réaliser? Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on attend? Parce qu'on va lire des textes ensemble, et c'est un Messie vivant que nous allons contempler, et il a fait une promesse. Évidemment, si quelqu'un a fait une promesse, c'est plus facile quand même qu'il l'accomplisse s'il est encore vivant pour l'accomplir. Parce que faire une promesse, et après, personne est morte. Bon. Mais s'il est vivant et qu'il avait promis, eh bien, il est garant lui-même de sa propre promesse. Alors, quand on se dit, ben, on va regarder un peu le texte de base, le texte le plus simple pour entendre cette promesse, est-ce que vous savez où est-ce qu'il faut aller ? Jean 14, absolument d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire plus simple et plus clair que quelques versets dans Jean 14. Les premiers versets de Jean 14. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. C'est extrêmement simple. Et ça commence avec un... quelque chose sur son authenticité. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Et ça, ça relie à son humanité, au fait que quand il était avec ses disciples, il les a habitués à lui faire confiance. Il les a habitués à ce que quand il dit quelque chose, ben, on peut compter dessus. Et soyez pas troublés. Croyez en Dieu, vous êtes des juifs croyants, vous êtes des croyants. Croyez aussi en moi. Donc là, on voit toujours dans l'évangile de Jean, hein, ce côté, son côté divin. Il a des phrases dans Jean qui le mettent vraiment au niveau de Dieu, avec quand même tout le respect qu'il faut pour comprendre dans les évangiles, ou toute la... mais divin dans l'évangile de Jean, tout à fait particulier. Croyez aussi en moi. Et alors il leur décrit la maison du Père, il y a de nombreuses demeures, un peu plus loin dans le même chapitre, le Père et moi nous ferons notre demeure chez le croyant. Donc cette demeure, c'est le lieu où Dieu se trouve. Dieu se trouve dans un lieu où il nous accueille, et puis Dieu se trouve aussi dans notre cœur, et il fait sa demeure chez nous. Et si on était autrement, je vous l'aurais dit. Donc faites-moi confiance. Et après, c'est tellement simple. Je vais préparer une place. Donc, je m'en vais, je prépare, je reviens, et je vous prends. Tout ça. Je m'en vais, je prépare, je reviens et je prends. C'est tout ça. Et le but de tout ça, c'est qu'on soit ensemble. Afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Tu parlais tout à l'heure de la comparaison avec la fiancée. Le bonheur d'être avec ceux qu'on aime, que ce soit une fiancée, que ce soit un ami, que ce soit des parents, des enfants, des gens qu'on aime retrouver, c'est être ensemble. Le bonheur, c'est être avec, quand même. C'est ça. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement simple entre, à la fin, on est ensemble, et il va partir. Il y a ce « je m'en vais », et on va beaucoup entendre le « je m'en vais » et « je reviens ». Et puis, effectivement, il y a aussi le « je vous prendrai » qui se rajoute, et qu'on regardera aussi tout à l'heure, évidemment, et bien sûr, comment ça se passe, ce côté « je vous prendrai », mais... presque même si on l'enlevait, on a « je pars, je reviens » et on est ensemble. Et au passage, j'ai préparé la place. Donc il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir que Jean 14, ces quelques versets, c'est les seuls qu'il faut garder au fond de son cœur pour ce sujet du retour du Seigneur. C'est la base de tout. Beaucoup de simplicité. Il est Dieu, il est divin. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. On lui fait confiance. Ce qu'il nous dit, ça se passe. Il va partir, il va revenir et on sera ensemble. C'est aussi simple que ça. Alors, si on continue un peu dans ces discours qui ont lieu dans la chambre haute le soir, la veille, le jeudi soir, la veille de la Passion, ben oui, il l'annonce son départ. Il l'annonce son départ. Maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Oui, forcément, ils étaient tristes. Il leur dit qu'il part. Et les disciples, ben, on l'a vu tout à l'heure, ils espéraient peut-être que le Messie allait quand même finalement prendre le pouvoir. Enfin, quand même, il y a quelques jours, il est entré dans Jérusalem sur le petit ânon et tout le monde a crié Hosanna au fils de David. Donc, on est quand même là. Et voilà qu'il dit qu'il va partir. Alors, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit, qui va le remplacer sur la terre. Donc il va partir et il va envoyer le Saint-Esprit sur la terre qui le remplace et qui habite dans le croyant. Je pars et je m'en vais à mon Père. Et vous, vous ne me verrez plus. Donc Jésus annonce vraiment son départ. Il promet de revenir, mais il annonce son départ. Il est vraiment insistant sur le fait qu'il va partir. Il va se faire remplacer par le Saint-Esprit, bien sûr, mais ça ne voudrait pas dire que c'est simplement par le Saint-Esprit qu'il est revenu à nous. Son retour, on va le voir, est aussi tout à fait distingué, en plus du fait qu'il envoie le Saint-Esprit. Et si on continue la lecture, un peu de temps et vous ne me verrez pas. Encore un peu de temps et vous me verrez, ça peut être que ça veut dire, effectivement, il va mourir, et encore un peu de temps et vous me verrez, c'est peut-être la résurrection. Parce que je m'en vais au Père, donc voilà, je m'en vais. Et puis, quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres, mais que signifie ce qu'il nous dit, un peu de temps, vous me verrez, encore un peu de temps, vous ne me verrez pas parce que je m'en vais au Père. Donc, ils se posent des questions eux-mêmes, ils s'interrogent sur ce que ça veut dire. Je suis sorti d'auprès du Père et je suis venu dans le monde et de nouveau, je laisse le monde et je m'en vais au Père. Donc là, il nous montre un peu son premier aller-retour, qui nous laisse aussi penser qu'il y aura un deuxième aller-retour. Et il nous le présente vraiment comme des voyages, comme des mouvements. Je suis sorti d'auprès du Père et je suis venu dans le monde. Bien sûr qu'il a été incarné, qu'il est né comme un bébé dont on a parlé ce matin. Mais ici, il nous présente les choses comme un voyage. Comme voilà, j'étais auprès du Père, je l'ai quitté, je suis venu dans le monde, et de nouveau, donc c'est la suite normale, je repars, je m'en vais, je pars, je laisse le monde, je m'en vais au Père. J'ai fait cet aller-retour, je vous suis en train de vous annoncer cet aller-retour, là on en est au retour, en bleu, mais regardez, je suis venu, je m'en vais. Et tout ça, bien sûr, ça prépare la pensée qu'il va y avoir un autre aller-retour pour nous chercher, pour être avec lui. Et la lecture dans Jean continue. Avec le chapitre 17. Qui va boucler la boucle. Je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde, moi, je viens à toi. Là, ça devient très personnel. On est dans la prière que le Seigneur Jésus adresse à son Père, et il était venu du Père, et il est dans le monde, et maintenant il s'apprête à repartir. Et la croix, la mort, l'ascension, voilà, tout ça est devant ses yeux. On est la veille de la croix. Mais pour le Seigneur Jésus, ce sacrifice, cette mort-là, quelques heures plus tard, le même jour, on est jeudi soir, donc le vendredi soir, vendredi après-midi, ce départ, cette souffrance, comment il les appelle ? Il les appelle « Moi, je viens à toi. Moi, je viens à toi. » Est-ce que ce n'est pas aussi une consolation quand quelqu'un qui nous est cher est parti ? On utilise l'expression « Il est auprès du Seigneur ». Jacques, vous l'avez utilisé tout à l'heure en parlant de quelqu'un, « Il est auprès du Seigneur. Je viens à toi. » Est-ce que ce n'est pas incroyable de la façon dont le Seigneur exprime à son Père, voilà, je viens, je suis en chemin, et pourtant on sait qu'il y a devant lui toute la souffrance de la nuit à Gethsémané, du procès, des moqueries, des soldats, d'ailleurs toute cette journée, ces 24 heures de la Passion, sont devant lui la mort, le tombeau, et quelle étiquette il met, moi, je viens à toi, et maintenant je viens. Et je dis cela dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Voilà, une joie aussi pour nous, si quelqu'un nous a précédés et qu'il est allé à lui, eh bien, ça prend une autre dimension. Et dans son cas, je viens à toi, et ils aient de la joie en eux-mêmes, la joie qui va être donnée par le Consolateur qui l'envoie, la joie de toutes les conséquences, évidemment, de son œuvre. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. On retrouve à la fin son côté éternel, et son insistance, Père, je veux, on n'est pas habitué à l'entendre parler comme ça, Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, c'était la promesse de Jean 14, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Donc, être ensemble. Donc, être ensemble, c'est absolument le but qu'il veut atteindre. Et on a bouclé tous ces discours de la chambre haute. On a commencé au début de Jean 14 avec cette promesse, et on sera ensemble afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Et maintenant, on boucle avec la fin de Jean 17, fin de ces discours, puisqu'après c'est le jardin de Gethsémané, Jean 18. Et presque le dernier verset, je crois que c'est même le dernier verset, eh bien, on est ensemble. Là où moi je suis, ils y soient aussi avec. Donc je viens à toi, et à la fin on sera ensemble avec ceux que tu m'as donnés. Donc si ça, ce n'est pas une très, 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 très profonde promesse de revenir, de nous retrouver, d'être ensemble, c'est quoi ? Donc c'est très 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 puissant. Il annonce son départ, il promet de revenir. Mais évidemment, juste après ça, eh bien il est mort. Donc en fait, sa résurrection va être la preuve que sa promesse est une vraie promesse. Et Jésus est vivant, sa résurrection a été annoncée, son retour est annoncé. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on y entre ? Parce que de même que la résurrection a été annoncée, de même son retour est annoncé. Et on va voir que pour les disciples, ce n'est pas si facile. Et donc, pour nous, est-ce qu'on est prêt à ce retour? Est-ce qu'on est comme ces serviteurs dont on a lu tout à l'heure la parabole, qui sont prêts pour son retour? Alors si on regarde la résurrection, elle était déjà, elle aussi, annoncée dans l'Ancien Testament, pas de façon très très claire, pas de façon peut-être noir sur blanc doctrinale, mais on a ces deux versets par exemple, il y en a d'autres bien sûr, symboliques ou autres, mais enfin ici, psaume 16, tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, donc tu ne permettras pas que voilà, celui qui est mis à part pour toi, ton bien-aimé, ton sein voit la corruption, donc tu ne permettras pas que, en étant dans le séjour des morts, eh bien, son corps soit perdu, soit retourne à la terre complètement. C'est ça que ça veut dire, la corruption, dans ce cas-là. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Donc on a ici vraiment la notion que le corps ne voit pas la corruption, et puis que on voit, on rencontre Dieu, qu'on est avec lui, mais ce n'est pas juste. Il y a un esprit qui est avec Dieu, et puis tant pis pour le corps. Non, non, le corps ne voit pas la corruption, et puis on retrouve la vie, le chemin de la vie, et on a un rassasiement de joie, on est ensemble. Un plaisir à ta droite pour toujours, c'est être ensemble. Un verset qui s'applique bien sûr au croyants juifs de l'époque, et on sait qu'il y a des croyants juifs dans le Nouveau Testament qui croyaient à la résurrection, comme par exemple les pharisiens, alors que d'autres n'y croyaient pas. Donc ces enseignements sur la résurrection dans l'Ancien Testament n'étaient pas forcément très faciles à voir, puisque certains croyaient, d'autres ne croyaient pas. Mais voilà un exemple, et ce texte est appliqué au Seigneur Jésus par les premiers prédicateurs des Actes, donc par Pierre qu'il l'applique une ou deux fois, et puis ensuite il y a Paul qui va reprendre la même pensée, donc en utilisant ce texte pour une prédication. Psaume 49. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du Sheol, de nouveau Sheol, séjour des morts, car il me prendra. Donc, résurrection pour le croyant, mais aussi résurrection pour le Christ. Et la résurrection du Christ, évidemment, elle est la garante, elle est la preuve que les chrétiens, que les croyants vont être ressuscités. Hein, ce qu'on appelle les prémices, c'est-à-dire qu'il est comme la preuve à l'avance que ça va se passer aussi pour les autres. Donc la résurrection du Christ, elle est fondamentale dans la foi chrétienne en tant que base de toute la foi. Toute la foi chrétienne s'effondre si on enlève la résurrection. Mais elle est aussi fondamentale pour établir la résurrection des chrétiens. Et pour nous consoler si on a des gens qui nous ont précédés. Donc cette résurrection est la base absolue du christianisme, et elle va aussi être la base de la promesse de sa venue, parce que pour promettre de revenir, il faut être vivant, il faut être ressuscité. Alors, si on regarde le fait que sa résurrection était annoncée, on a aussi les annonces de la résurrection dans les évangiles. Alors, savez-vous combien il y a d'annonces de sa souffrance dans les évangiles? À combien de fois il va annoncer précisément à ses disciples dans un moment spécial où il leur en parle, où il les prend un peu à part pour leur annoncer ses souffrances? Alors, ce n'est pas une question piège en allant trouver tout, il y en aura peut-être plus que ce que je vais dire, mais enfin, quelles sont les quelques fois importantes qu'il faut garder en tête? Ça serait plutôt ça la question. Voilà, tout à fait, ça en fait partie d'une, exactement. Ça sera une des trois où l'apôtre va être un peu renvoyé dans ses baskets. Alors, je l'ai dit. Oh, alors il y en a combien?
Trois.
Bien. Mais alors, comme elles se ressemblent, et qu'il y a plusieurs évangiles, on les confond toutes. Et voilà. Donc, si on les met dans un tableau, ça va nous aider. Et si on prend un seul évangile, ça nous aidera. Et alors, si on avait un petit moyen mnémotechnique, ça nous aiderait.
Oh, si ça pouvait être dans trois chapitres l'un après l'autre, ça serait plus facile. Oh, et s'ils pouvaient être tous les trois au même verset, ça serait génial.
Et bien voilà, vous l'avez.
Marc 8, Marc 9, Marc 10, 32. Voilà, Marc 8, Marc 9, Marc 10, verset 32. Autour du 32, d'accord? Et vous ne le perdrez plus jamais. Vous le retrouverez toujours. Et il y a la même chose, bien sûr, en Luc. Il y a aussi trois fois dans Luc. Je n'ai pas vérifié pour Matthieu, je pense. Je pense qu'ils sont aussi tous les trois dans Matthieu, mais j'ai oublié de vérifier. Mais c'est tellement facile dans Marc. C'est M. Georges André qui nous disait ça. Hein? Marc 8, 9, 10, vers le verset 30, à l'époque, il disait. Et en vérifiant, je me suis dit, tiens, mais avec 32, ça marche encore mieux, puisque c'est pile, il est dans les trois textes. Et alors, quand on le lit, quand on les lit, donc la première, c'est dès lors, il commença à les enseigner, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite après trois jours. Marc 9, car il enseignait ainsi ses disciples, le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et après avoir été mis à mort, il ressuscite le troisième jour. Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Et en fait, Marc 10, on va voir, donc là c'est l'introduction, ils allaient devant eux, etc. Et il les prend à part, voici nous montons à Jérusalem, et en fait, il va y avoir aussi mort, mourir, ressuscité. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort, le livreront aux nations, ils se moqueront de lui, le fouetteront, cracheront sur lui, feront mourir, et il ressuscitera. Donc les trois, en fait, les trois contiennent la mort et la résurrection. Hein, donc là, je l'ai recopié celui-là, le même. Les trois contiennent la mort et la résurrection. Et donc, c'est dans la première, effectivement, que Pierre s'y oppose. L'amenant à l'écart, Pierre se dit à le reprendre, mais ça ne t'arrivera pas. Et ça, ça rejoint notre questionnement de tout à l'heure. Comment ses disciples, les juifs de l'époque, avaient du mal, bien sûr, à accepter ce côté mourir, partir, s'en aller, la tristesse a rempli votre cœur. Donc toujours pour eux, difficile de l'accepter à l'époque, mais si maintenant on se place, on se dit quand même, il leur a raconté trois fois, et à chaque fois, c'était très clair, il y avait la mort et la résurrection. Il y avait la mort et la résurrection à chaque fois. Donc, s'il nous dit « je pars et je reviens », et au cas où ils nous le disent plusieurs fois dans le Nouveau Testament, et c'est un peu le but cet après-midi de les parcourir aussi, ben, il ne faudrait pas qu'on ressemble aux disciples qui, eux, l'ont entendu trois fois, c'était bien clair, il y avait la mort et la résurrection, mais en fait, ils ne l'avaient ni compris, ni assimilé, et ils n'y croyaient pas. Voilà. Donc on se pose la question, et nous, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y entre? Sa résurrection a été annoncée, son retour il est annoncé aussi. Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on vit en accord avec ça? Alors, toujours dans le côté l'annonce était faite, on l'a aussi quand les anges rencontrent les femmes au tombeau en Luc 24. Comme elles étaient épouvantées et baissaient le visage vers la terre, les anges leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Alors elles se souvinrent de ces paroles. Vous avez remarqué ce qu'ils disent les anges?
Mais souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. Mort, ressuscite. C'est comme si les anges avaient lu nos trois passages de Marc. Ou comme s'ils avaient entendu. Comme si c'était bien clair pour les anges qui observaient, on va dire, la scène, qui s'intéressent, qui regardent de près, comme nous dit l'Épître. Mais c'était bien clair, pourtant il avait bien dit qu'il allait mourir et ressusciter. Souvenez-vous. Et alors les femmes s'en souvinrent. Eh bien oui, les femmes s'en souvinrent. Les femmes étaient souvent là, hein. Les femmes faisaient partie du groupe. Il y avait des femmes qui l'aidaient aussi de leur bien. Donc les femmes étaient associées au groupe des disciples. Il y avait toute une logistique autour de ce groupe, avec Jeanne qui aidait en particulier, Marie de Magdala, etc., d'après Luc 8, premier paragraphe. Donc elles se souviennent de ces paroles.
Mort, vivant, ressuscité, crucifié, ressuscité, c'est très clair, et maintenant elles se souviennent. Donc c'était vraiment annoncé, et on est étonné qu'avec autant d'annonces, ça n'ait pas été reçu. Et on peut se questionner, son retour, on a vu qu'il est tellement simple, dans Jean 14, tellement clair jusqu'à Jean 17, qui veut être avec nous, tellement simple, c'est tellement répété, et on n'a pas fini, on n'a pas fini de voir que c'est répété, et pourquoi alors on est un peu dur d'oreille, comme les disciples, à avoir du mal à entrer dans cette espérance.
Même les ennemis s'étaient posé la question, puisque le lendemain, jour qui suit la préparation, donc on est le samedi après la croix, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent auprès de Pilate et dire « Seigneur, donc Pilate, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, quand il était encore vivant, après 3 jours, je ressuscite. » Donc eux aussi, ils s'en sont souvenus. Les femmes ont eu besoin que les anges aient dit « Alors vous vous souvenez pas ?» Ah ben si, finalement on se souvient. Et là, ce sont les ennemis qui se souviennent qu'il avait dit, ce Jésus qu'ils disent que c'est un imposteur, eh bien, quand il était encore vivant, il avait dit, après 3 jours, je ressuscite. Donc, sa résurrection est annoncée, hein ? Annoncée dans l'Ancien Testament, annoncée par lui-même, entendue par plusieurs, annoncée et elle a eu. Donc, la question, c'est que est-ce qu'on ressemble éventuellement aux disciples? Ils sont lents à croire, parce que s'ils regardent les disciples, quand ceux-ci apprirent, donc quand les disciples apprirent qu'il était vivant et qu'il avait été vu par elle, donc par Marie-Madeleine la première, ils ne le crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin. Donc là, on est dans Marc 16. Vous savez que la deuxième partie de Marc 16, c'est un texte, on va dire, autoporté, un texte différent du reste de l'évangile de Marc, qui est probablement un résumé extraordinaire de la résurrection, qui s'apprenait peut-être par cœur, et qui a donc été remis par écrit, probablement par Marc, et accroché à son évangile, et c'est pour ça qu'on a un texte un peu différent qui conclut l'évangile, et dans ce texte, on a comme un résumé. Donc on a le fait que Marie de Magdala vient l'annoncer aux disciples, ils ne le crurent pas. Ensuite, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin, c'est les disciples d'Emmaüs, de Luc chapitre 24, allant à la campagne, ils allaient à Emmaüs,
Et ceux-ci allèrent l'annoncer aux autres, donc ils sont revenus à Jérusalem, mais ils ne les crurent pas non plus. Hein? Plus tard, il apparut aux 11, comme ils étaient à table, donc plus tard le soir même, le dimanche soir de Pâques, il leur reprocha leur incrédulité, donc j'aurais dû mettre ça en vert aussi, ça nous en fait un quatrième, incrédule, hein, c'est ne pas croire, et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qu'ils avaient vus ressusciter. C'est quand même incroyable que dans ce résumé de Marc 16, que tout le monde apprenait bien par cœur, et qui formait comme un peu un credo, comme un peu un document de base là, de l'évangile, même avant que tous les autres évangiles soient écrits. Donc on avait cette fin de Marc là, tous ces versets de la fin de Marc, et bien dans ce résumé, paf, quatre fois sur la tête, que nos braves disciples ne croyaient pas. Intéressant hein, pour lancer un mouvement et pour évangéliser la terre entière. Hein. Ils n'y croyaient pas. Et ensuite, il les envoie à prêcher à tout le monde entier. Ils n'y croyaient pas, quatre fois. Voilà. Et nous, on a la promesse de son retour. Et est-ce qu'on y croit ? On a la promesse de son retour. Et est-ce qu'il va être écrit de nous ? Mais ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas, incrédule. Vous voyez le parallèle entre sa résurrection et son retour. Voilà, ça c'est le parallèle résurrection-retour. Et essayons de ne pas ressembler aux disciples si l'on a craint. La troisième partie de ce moment, je vérifie nos horaires, tout va bien. La troisième partie, c'est... Eh bien, qu'est-ce qui se passe finalement? Alors, il est mort.
Il revient.
Oui, voilà, exactement. Donc, à peu près... Mais avant de revenir, il faut donc qu'il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il a été vu. Ça, c'était une petite conférence qu'on avait faite à La Rochelle en 2021. Hein? Et avant de revenir, qu'est-ce qui nous manque? Pardon? Eh oui, bien sûr. Ben oui, c'est aujourd'hui. C'est le jeudi de l'Ascension. Voilà. Donc avant de revenir, il faut partir. Et ça, c'est quand même très cohérent, parce que on a vu tout à l'heure dans Jean, il nous présentait des allers-retours, il nous présentait des mouvements presque, des voyages. Et donc, ce départ va être très important. Très, très important. Fondamental, de nouveau. Pour établir son retour, il faut être parti. Pour que ce soit physique, pour que ce soit vrai, pour que ce soit tangible, il faut qu'il y ait eu un départ réel, physique. Voilà, très important. Alors, cette ascension, elle aussi, elle était annoncée, pardon, voilà, donc, Jésus élevé au ciel est la promesse des anges. Et son élévation, son ascension, était elle aussi annoncée dans l'Ancien Testament. Un peu plus discret, bien sûr, pas très facile, hein, mais on a, dans le psaume 68, et c'est cité en Éphésiens, c'est pour ça qu'on a... On l'a retrouvé peut-être plus facilement. Tu es monté en haut et tu as emmené captive la captivité. Donc, tu as pris tes captifs. Donc, c'est comme s'il faut imaginer qu'il y a eu un combat ou la prise d'un village. Et donc, il y a eu des captifs qui ont été pris en otage par les bandits, on va dire. Et puis, il y a le sauveur qui arrive et qui récupère les captifs. Il récupère la captivité, donc il récupère tous ses captifs, et qui les emmène avec lui. Hein, et qui rentre, on va dire, rentre à la maison. Dans ce cas-là, tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité, comme homme, tu as reçu des dons, et même pour les rebelles, afin qu'il y a Dieu et une de vous. Le Seigneur, donc, après leur avoir parlé, fut élevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Un autre, donc ça c'est, j'aurais pu le mettre à la page d'après, parce que je voulais d'abord donner un autre texte de l'Ancien Testament qui est une image de l'ascension. Ça va bien avec la journée d'aujourd'hui. Alors, un texte de l'Ancien Testament
symbole, image, type de l'ascension. Pardon ? Oui, oui, Élie, ça peut être tout à fait une bonne idée. Et on va garder Élie pour tout à l'heure. Parce qu'Élie sera plutôt une image de quoi ? Pas forcément de l'ascension du Christ, mais de voilà, l'ascension ou l'enlèvement des chrétiens. Donc on va le garder. Mais évidemment, Élie dans un char de feu, si on voit Élie type de Christ, alors tout à fait d'accord. Et il est à certains égards. Autre texte, j'ai d'ailleurs trahi quelque chose parce que j'ai parlé d'une ascension dans du feu. Voilà, les parents de Samson, Manoah et son épouse, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Juge 13, non, c'est pas cité en Éphésiens 4:8, ça c'est faux, ça c'est le truc d'avant. Juge 13, Manoah prit le chevreau et le gâteau, et il les offrit à l'Éternel sur le rocher. Alors l'Éternel fit une chose merveilleuse, tandis que Manoah et sa femme regardaient. Je vous avais dit tout à l'heure que le verbe regarder, voir, on allait pas mal le retrouver cet après-midi, ça commence déjà là. Tandis que Manoah et sa femme regardaient comme la flamme montée de l'autel vers les cieux, monte vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel, Manoah et sa femme regardent. Donc on a un autel de sacrifice et on a quelqu'un de vivant qui monte dans la flamme au ciel. Oh, ça c'est quand même une belle symbolique. Puis comme la personne qui monte, c'est l'ange de l'Éternel, celui qui accepte une adoration, donc il n'est pas un ange normal, puisque les anges normaux n'acceptent pas d'adoration, on le sait bien, on le voit dans l'Apocalypse. Non, non, mais on ne m'adore pas, moi je suis qu'un serviteur. Donc un ange dans l'Ancien Testament qui accepte une adoration, c'est beaucoup plus qu'un ange, et d'ailleurs le texte lui-même laisse planer un peu de doute. Hein. Manoah offre à l'Éternel sur le rocher, et puis on a l'ange de l'Éternel qui monte dans la flamme. Donc on sent que c'est probablement le Seigneur Jésus préincarné qui se manifeste ici visiblement, vraiment comme un homme qui on voulait lui faire à manger. Donc ce n'était pas un esprit, c'était vraiment un homme à qui on parle. Il est préincarné et il monte dans le feu, il monte vers les cieux et Manoah et sa femme le regardent. Justement, comme les disciples, Luc 24, il les mena dehors jusque vers Béthanie, puis levant les mains en haut, il les bénit. Et il arriva, qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux et fut élevé dans le ciel. Donc c'est vrai que c'est court. Dans Luc 24, c'est court. On aimerait savoir comment ça s'est passé. Et comme dans Matthieu, il n'y a pas d'ascension, et comme dans Jean, il n'y en a pas non plus, et comme dans Marc, on n'avait que notre tout petit verset de là, le Seigneur donc, après l'avoir parlé, fut élevé dans le ciel et s'assied à la droite de Dieu, on aimerait avoir un peu plus de détails. Et heureusement, Luc s'est remis à la planche et il a complété. Il a complété avec le début des actes. Voilà, Jésus élevé au ciel et la promesse des anges. Alors, acte 1, verset 6. Donc, un texte qui m'est cher, que ceux qui me connaissent ont très souvent entendu parler et présenter. Mais j'ai rajouté une couleur, effectivement, même deux. Alors on le relit, donc il y a plus de détails. Marc, acte 1. Après avoir dit ces choses, il fut élevé de la terre, tandis qu'il regardait. Et une nuée le reçut et le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient leur regard vers le ciel, tandis qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se tenaient là, à côté d'eux. « Hommes galiléens, dirent-ils, pourquoi restez-vous là, regardant vers le ciel ? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Et donc, je vois qu'il me manque un vers, puisque on aurait pu rajouter ici, tandis qu'il s'en allait en vers. Et donc, on a bien son départ, il fut élevé, il s'en allait, il a été élevé, il s'en allait. Tout ça, c'est... Tout ça, mais c'est de la répétition de tout ce qu'on a lu dans Jean. Je m'en vais, je vais à toi, je m'en vais, je vous l'ai dit. Il est parti, ça y est, ça se passe. Il l'avait dit, ça se passe. Et alors, vous avez remarqué quand même, tandis qu'ils regardaient, un, le reçu devant leurs yeux, deux, ils fixaient leur regard, trois, mais pourquoi restez-vous là regardant, quatre, mais vous l'avez vu, cinq. Donc, je vous ai dit ce matin l'importance du fait qu'ils l'ont vu partir de leurs yeux. C'est un vrai départ. C'est physique. Il est parti, ils étaient ensemble et de leurs yeux, ils l'ont vu partir. Et c'est très important. La comparaison avec Élisée et avec Élie qui monte devient de plus en plus valable. Parce que qu'est-ce qu'il fallait pour avoir une double mesure de l'esprit d'Élie sur le prophète Élisée, il fallait le voir quand il partirait. Donc, c'est parallèle. Et là, ils l'ont vu partir. Alors, il y a un frère anglais, j'ai oublié son nom, qui racontait l'histoire de la reine d'Angleterre. Donc, on l'a déjà raconté, mais il faut la raconter. C'est cette petite fille qui demande, mais papa, qu'est-ce que ça veut dire vraiment que la reine d'Angleterre est restée 70 ans sur le trône? Ça veut dire qu'elle était vraiment assise pendant 70 ans sur le trône? Ah non, 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 mais sûr que non, lui dit son papa, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'elle était reine pendant 70 ans. « Ah !» dit la petite fille, « il n'y a pas de trône !»« Ah, si, 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 il y a aussi un trône. Il y a aussi, bien sûr, un trône, bien sûr, et de temps en temps, elle s'y assied. » Et donc, ce frère utilisait cette conversation pour qu'on comprenne bien que il y a, oui, oui, il y a vraiment un trône, c'est extrêmement physique. Il y a un trône, on peut s'asseoir dessus. Ils l'ont vu partir de leurs yeux, il était là, il est parti, il y a une nuée. Bien sûr qu'après, notre foi entre en jeu et il a disparu. Et bien sûr qu'après, des choses sont liées à la foi, au domaine du spirituel. Mais il y avait aussi quelque chose d'extrêmement physique, d'extrêmement matériel. Il y avait un trône, il était là, et puis on l'a vu partir, il y avait le nuage, et on avait la tête en l'air, on regardait. Et les anges nous disent, mais pourquoi vous regardez? En fait, il viendra de la même manière. C'est pareil. Ce sera pareil. C'est la continuité. C'est la continuité. C'est-à-dire que son retour est aussi présent physiquement que son départ. Et nous sommes juste les héritiers de ces gens-là. On est juste là aujourd'hui parce qu'en fait, ils ont vécu ça et ils nous l'ont raconté. Et ils nous l'ont raconté. Évidemment, avec tellement de matière autour de cette personne extraordinaire que bien sûr notre foi est fortifiée par plein de choses. Mais à la fin, on a une troupe de personnes qui n'y croyaient pas
Puis 40 jours plus tard, quand même, ils ont fini par vraiment y croire, qu'il était vraiment vivant. Sauf qu'un jour, il est parti, et ils étaient tous en train de le regarder. Et il y a des anges qui leur disent, mais en fait, il n'y a rien. Et on en est là. On est juste là. Il a dit qu'il vient de partir, il a dit qu'il revient, et on en est là. C'est d'ailleurs pour ça que ça répond à la question tout à l'heure, pour ça que de nouveau, dans la période actuelle, le Seigneur vient aujourd'hui, il peut venir quand il veut, puisqu'ils nous ont dit qu'il revient, et qu'il est parti là, sur la nuée. Et on y était, on l'a vu. Là. Voilà, donc, il y a un petit mélange entre des choses spirituelles du domaine de la foi, et puis des choses vraiment concrètes. Vraiment, vraiment concrètes. De son retour. Les yeux, le regard, on l'a déjà vu tout ce matin avec Job. Job, moi, mon Rédempteur est vivant, je le verrai moi, pour moi-même, mes yeux le verront, et non un autre.